Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Et je suis clairement devenu beaucoup moins drôle dans la vie depuis que je fais de la scène, quoi. Je crois qu'il y a une dose de sinistre et une dose de marrant dans chacun d'entre nous, tu vois. Et je crois que ma dose de blague, en fait, je crois que je la laisse un peu dans mon travail, en fait. J'en donne trop dans mon travail, tu vois. Et du coup, dans la vie, je suis plus à l'écoute, en fait, maintenant. En fait, j'ai moins besoin aussi d'attention, quoi.
Mais oui! Après un petit break estival, nouvel épisode des gens qui doutent avec quelqu'un que j'ai envie de recevoir depuis bien longtemps et quelqu'un que vous me demandez depuis bien longtemps. Guillermo Guise, vous le connaissez probablement pour ses chroniques sur France Inter, pour sa web-série Le Roi de la Vanne, pour son premier spectacle Guillermo Guise, un bon fond qui est dispo sur Canal, ou peut-être déjà pour son nouveau spectacle Au Suivant qu'il avait commencé à jouer avant le confinement et qu'il vient de reprendre là à Paris et en tournée. Guy est une des personnes qui me fait le plus rire au monde, donc j'avais déjà plein de questions à lui poser sur sa façon de travailler, mais pas que, puisque avant d'être humoriste, Guy a fait plein d'autres trucs assez peu probables, puisqu'il était footballeur presque professionnel, il était journaliste, il était manager de boîte de nuit, genre certains de ses souvenirs contiennent Paris Hilton. C'est déjà assez zinzin. Donc ça fait beaucoup de vies différentes et tout autant de choses à raconter. Donc là, on a profité tous les deux de l'été pour se poser à la maison, à Bruxelles, pour discuter de plein de trucs, de l'angoisse qu'était le confinement pour lui et du blocage créatif que ça a créé, de l'angoisse de ne plus avoir quoi que ce soit à raconter, de l'impression d'être de plus en plus con, de comment il travaille et construit ses spectacles, de comment avancer quand on est sûr de rien, de la fois où il a failli mourir et de ce que ça a provoqué chez lui, de son début de carrière dans le cinéma, et du court-métrage éclatos qu'il a réalisé, de son envie dès l'enfance d'avoir une vie différente, de sortir de la norme et de l'évolution des humoristes en France versus aux États-Unis. J'espère que tout ça vous plaira. Alors, t'as toujours été un gars sinistre ?
Ça a démarré ?
C'était pas... Hein ? J'ai tenté une boutade. Écoute, franchement... non, tu fais quoi cet été ?
J'ai fait quoi ou je vais faire quoi ?
Les deux.
Considérant qu'il y a encore une partie d'été qui va arriver ?
Les deux. Genre, c'est quoi ton mood ? Est-ce que t'es en mode je m'en bats les couilles de tout, c'est fantastique ? Ou tu bosses sur des trucs ou...
J'essaie de travailler là. Mais c'est... Je suis parti 10 jours en vacances et en fait, je m'étais dit je vais le matin, je vais me lever tôt, je vais écrire, ça va être bien, puis après je vais profiter. Puis en fait, non, hein. En fait, dans les grandes lignes, il y a une piscine et je trouve qu'il y a un côté très, très anesthésiant de la piscine, comme ça, tu vois. Il se passe absolument rien. J'ai essayé de lire des bouquins, mais en vrai, pff, il fait chaud, tu vois. Donc, du coup, non, j'ai pas foutu grand chose. Là, j'essaie de travailler. Hier, je me suis mis au pain quotidien et j'ai travaillé, je pense, 4 minutes. Et puis, j'ai fait, en fait, non, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre dans mon lit. J'ai passé l'après-midi au lit. Tu vois, donc on peut pas dire que ce soit très satisfaisant comme productivité.
Et est-ce que t'es du genre à t'auto-flageoler quand tu bosses pas ou est-ce que t'arrives à te dire ah c'est bon?
Non, je me dis que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Il me semble que j'ai toujours travaillé de ce genre-là. Enfin, que ça a toujours fonctionné sur le long terme, quoi, tu vois. En me disant, bon, je sais que voilà, il y a des jours où je me dis je suis dynamique. Le matin, je me dis ça y est, je me casse, je vais travailler. Et en fait, je me dis j'ai pas d'inspiration, quoi. Et après 10 minutes, je sens que ça y est. Il y a rien qui va sortir de cette journée. Donc, je fais autre chose. Je, je glande. Et puis il y a des jours où tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, et pendant 3 heures, t'écris. Et il y a des choses qui arrivent, quoi. Mais j'avoue que ça m'arrive assez moins que ce que j'espérerais que ça m'arrive, quoi. Mais je suis pas un grand travailleur comme toi, par exemple. Je pense que toi, tu es beaucoup plus productive, quoi, que moi, quoi. Tu fais plein de trucs et tout. Moi, je me dis parfois, tiens, ça peut être une piste, peut-être un truc. Non. Je rentre à la maison.
Et tu bosses sur quoi, là?
Bon, ouais, je sais pas, j'essaie de réfléchir à un troisième spectacle, je pense. Mais je me sens tellement, tellement, tellement pas inspiré. Ça fait vraiment peur, quoi.
Mais est-ce que c'est pas trop tôt par rapport au deuxième? Parce que là, concrètement, il est écrit depuis longtemps, mais tu le joues, tu l'as quasiment pas joué en échelle française.
Non, non, mais après, le problème, c'est que moi, je peux pas me dire en 2023, je vais prendre 4 mois et je vais faire un spectacle. Tu vois?
Pourquoi?
Je crois qu'il faut que... Enfin, l'expérience me fait dire que j'ai besoin de temps pour écrire, tester, écrire, tester, écrire, tester. Tu sais, effectivement, il est en début d'exploitation en France, le spectacle, mais en fait, ça fait... Il y a des blagues, ça fait 3 ans et demi que je les joue, quoi. Déjà, tu vois, parce que je les ai testés, retestés, machin, t'es bien, au King, c'était venu faire les cartes blanches. Tu sais que... Comment c'était, tu vois? Donc, du coup, j'ai l'impression que je suis obligé de m'y prendre vraiment très à l'avance pour avoir dans 2 ans un spectacle qui va être correct, quoi.
Mais tu te lasses pas?
De
ben là, tes blagues, ça fait, il y en a certaines, ça fait 3 ans qu'elles sont écrites. Ben maintenant, tu vas devoir les jouer encore 2 ans.
Mais de ouf, bien sûr que je me lasse, évidemment. Évidemment, mais après, bon, mais ça fait, c'est le boulot, quoi. Ça fait partie du métier, en fait, j'ai l'impression. C'est comme ça qu'on est censé progresser, tu vois, parce qu'à un moment, ou alors tu te dis, bon, moi, j'écris un spectacle et je le capte directement. Et puis,
tu fais une donne gagnant.
Ouais, par exemple. Bah ouais, voilà, par exemple. Ou tu te dis, bah non, en fait, il faut que j'aille présenter mon travail un peu partout, il faut que je m'impose et que pour ça, bah, y a rien à faire, il faut du temps, quoi. Mmh. Le premier spectacle, je l'ai joué 5 ans, je crois, un truc comme ça, 5 ans et demi. Bah forcément, après 3 ans et demi, ça te lasse, quoi. Mais en même temps, tu trouves un peu de fraîcheur parce que c'est chaque fois quand c'est des nouvelles salles ou quand c'est des nouveaux publics ou parfois tu réinterprètes tes blagues, etc. Il faut essayer de trouver une manière de se réenchanter soi-même par rapport à son travail, tu vois. Mmh. Mais ça, c'est sûr que là, forcément, il y a des moments où tu te dis, bon, oui, mais ça, ok. En fait, c'est pas tellement de la lassitude, c'est juste que j'ai l'impression que à un moment, t'es plus dans le challenge personnel, quoi. Une fois que tu sais que ton truc fonctionne et que ça marche et que ça marche et que c'est bulletproof, après, ben, tu te dis, oui, mais en fait, j'ai l'impression de parfois être un espèce d'imposteur avec mes blagues du passé, tu vois. Et que je me présente plus aux gens avec mon humour du présent.
Mais justement, ça, est-ce que là, en commençant maintenant à bosser sur le troisième spectacle, est-ce que quand tu le joueras dans 3-4 ans, tes blagues, elles seront pas déjà obsolètes par rapport à la personne que t'es?
Ouais, je sais, mais c'est le risque, en fait, hein. C'est le risque. Je te dis, j'adorerais te dire, mais en fait, maintenant, je vais complètement changer de stratégie et je vais rien faire. Je vais pas écrire pendant 1 an et demi. Et puis, dans 1 an et demi, je vais écrire 4 mois à fond et sortir un spectacle qui tue. J'adorerais te dire ça, tu vois. Mais en fait, j'en sais rien. Je pense pas, quoi. Enfin, peut-être, mon intuition me dit que si je fais ça, ça va pas être bien. Mon intuition, elle me dit, enfin, c'est pas mon intuition, c'est mon expérience là qui me dit, j'ai besoin de saigner mes blagues à fond pour qu'à un moment je sache qu'elles sont présentables dans un spectacle, si tu veux, pour lequel les gens payent 25-30 euros, quoi, tu vois, et qu'ils soient à la hauteur de ce que j'ai fait par le passé. Mais comme on apprend, tu vois, ce métier, on n'a pas été à l'école pour faire ce métier, on apprend sur le tas, quoi. Et là, mon tas actuellement, c'est de me dire, c'est comme ça que ça a marché pour le deuxième spectacle, tu vois. Le deuxième spectacle, je l'ai commencé très en amont, et il s'est construit comme ça, et quand je l'ai présenté en disant, voilà, la première dose suivante, bah, le spectacle, il était déjà quasi béton, quoi. Enfin, béton, entendons bien, genre à mon niveau et ce que tu veux, mais... Donc, je pourrais me dire, en fait, j'écris pas, je garde de la sève pendant 1 an et demi, j'écris pas, et après 1 an et demi, j'écris 4 mois. Je pourrais le faire, tu vois, mais il y a quand même un sacré risque que ça nique ma carrière, quoi.
C'est toujours un risque à prendre. Je pense que tu la niqueras autrement.
Oui, non, probablement, c'est sûr. Mais... Et puis au-delà de ça, malgré tout, écrire des blagues, ça reste quand même une chouette activité, quoi. Donc au pire, ce que j'écris pour le moment, je peux l'utiliser dans d'autres, dans des chroniques format, ou dans des.
Mais vu que tu dois écrire beaucoup parce que tu fais souvent des nouvelles blagues et que t'as les chroniques chaque semaine, des fois tu te sens pas vide.
Mais de ouf, je me sens vide. Je sens être de la matière noire de l'espace, là, je te jure, et j'ai plus rien, quoi. J'ai plus rien. Mais ça fait longtemps que j'ai plus rien, tu vois. Ça fait. En fait, le confinement, il m'a tué, quoi.
Comment tu l'as vécu
C'était horrible. Au-delà de la du caractère anxiogène du truc, etc., et de comment est-ce que je l'ai vécu vraiment personnellement, créativement, c'était atroce, quoi. Il y avait plus rien tout d'un coup. Il se passe plus rien. Enfin, il se passe un truc mondial auquel tout le monde réfléchit en même temps. Mais dans ta vie personnelle, il y a plus rien qu'alimente, quoi. Mmh. C'est-à-dire que t'as plus vraiment de discussion avec les gens à part de comment ça va toi et qu'est-ce que tu penses. Et t'as entendu les chiffres, machin. À part ça. Qui se passait, il se passait vraiment plus rien, quoi. Il y a des gens qui se voyaient encore, qui faisaient des fêtes. Moi, je faisais plus rien, de rien, de rien. Et donc, ça m'a complètement bloqué créativement. Et c'était. J'ai vraiment perdu un an de vie, quoi. J'ai l'impression d'avoir été. C'est comme si j'avais été en prison pendant un an sans livre, tu vois. Parce que je lisais plus, j'étais incapable de lire.
Tu pouvais pas lire.
Mais j'étais incapable. Je lisais une demi-page et puis j'étais anxieux.
Mais tu faisais quoi alors?
Je te jure, littéralement, je gérais mon anxiété toute la journée. C'était vraiment la gestion d'anxiété, quoi. C'était, ok, là, ça va. Ok. Et puis tout d'un coup, non, là, ça va pas. Ok, c'est pas grave. Je vais sortir dans la rue, je vais marcher pour respirer. Enfin, tu vois, c'était vraiment une période dure, quoi. Et donc, j'ai rien foutu. Mais vraiment rien. Et donc, j'ai vraiment l'impression, il y a des gens, quand j'entendais des gens dire, ouais, moi, je suis en train d'écrire une série, etc., j'étais là, putain, les gens écrivent des séries et tout. Moi, j'étais, nulle part, quoi. Donc j'ai perdu un an. Normalement, j'aurais dû écrire pendant cette année-là, tu vois. Et ça m'aurait avancé clairement sur un prochain spectacle. Sauf que là, je dois la rattraper. Mais je la rattrape avec plus grand chose à dire, quoi. Que tu me demandes si je me sentais vide.
Mais d'un côté, tu dois la rattraper. Mais non, parce que le reste n'a pas avancé non plus. Donc ton spectacle, ton troisième, il a juste été retardé d'une année. Donc t'as pas. Tu vois.
Ça s'est frisé, quoi. C'est un peu frisé, etc. Oui, non, d'office. Mais en attendant. Je vais quand même devoir arriver avec des nouvelles blagues à un moment, tu vois, ou des nouveaux projets ou des trucs comme ça. Et malgré tout, ben moi, on rajeunit pas, quoi, tu vois. Enfin, je vieillis. Enfin, à un moment, il faut. J'ai bientôt 40 ans, machin, tu vois de ça. Et donc ouais, j'aurais bien aimé quand même avoir du nouveau matos, avoir des nouvelles idées, avoir des. Et là, j'ai eu un blocage de créativité terrible. Et j'espère que ça va se débloquer avec la vie qui reprend, etc.
Et tu fais quoi quand ça t'arrive? Est-ce que t'essayes d'y aller un peu au forcing en mode tu te mets quand même devant ta feuille qui t'a resté 4 minutes ou tu te dis genre non, faut juste que j'aille vivre des trucs, je vais zinziner et puis j'aurai des choses à dire?
Bah, c'est un espèce de mélange des deux parce que tu vois, quelque part, t'as un espèce de fantasme de pouvoir avoir des trucs marrants à raconter sur n'importe quel pan de la société, tu vois. N'importe quel fait sociétal, n'importe quel actu, et de dire bah sur ça je vais quand même pouvoir parler, ce sera pas de moi. Et en même temps, l'expérience me fait dire que moi, ce qui me plaît d'écrire, et ce qui surtout marche quand je le fais, c'est quand je raconte mes histoires, tu vois. Sauf que des histoires, il m'en arrive plus tant que ça, en fait. Il m'en arrive plus tant que ça, et ça commence à revenir un petit peu, heureusement, parce qu'on peut un peu rebouger un peu, se revoir, etc., tu vois, mais c'est pas... c'est clairement pas comme avant, quoi. Tu vois, avant, je racontais des trucs qui m'arrivaient, et... Tu sais, parce qu'en plus, il faut que je les dispatche dans les chroniques, il faut que je les dispatche dans... Ben, c'est pareil pour toi, quoi. Tu vois, moi, je suis toujours étonné de voir le nombre de sujets que tu trouves, quoi. Moi, à un moment, j'ai plus de sujets, quoi.
C'est tout le temps les mêmes. Mais justement, j'ai l'impression de tourner en vase clos de ouf. Parce que... Je fais tout le temps les mêmes choses, je sors pas énormément, je lis tout le temps les mêmes trucs de gens qui sont d'accord avec moi et je me confronte pas à des choses trop différentes. Comment toi, t'essayes d'ouvrir ça?
Ouais, j'essaie de lire pas mal quand même. Je lis pas mal, mais en vrai, j'ai l'impression de devenir con, quoi. Je te jure, je lis, j'ai l'impression que ça c'est un peu... Je comprends plus les concepts et tout. Je sens un vrai déclin intellectuel.
Ah ouais?
De ouf. Mais vraiment... Mais ouf, quoi. C'est vertigineux, tu vois, de se dire... je pense avoir été quand même assez alerte quand j'avais la vingtaine, début de trentaine et
tout. Tu dis que t'étais fort intéressé par la philo quand t'étais ado.
Ouais, de ouf, mais plein de choses. Hein. Tu vois, j'étais intéressé par plein de trucs là, l'anthropologie, l'espace, les étoiles, machin. J'ai lu un million de trucs, tu vois. Mais déjà, j'ai rien retenu. Donc je serais incapable de tenir une conversation sauf en sortant trois lieux communs sur les trous noirs et je serais incapable alors que j'ai lu une tonne de bouquins là-dessus, tu vois. De un, je retiens rien. Et de deux, aujourd'hui, ça s'imprime plus. Donc, je lis et ça s'évanouit immédiatement comme ça, tu vois. Et donc, en fait, je pense que ma carrière, l'avenir est sombre. Honnêtement, d'un point de vue carrière, je crois que il faut profiter de mes derniers soubresauts comiques avant que j'arrête de faire des trucs créatifs, quoi. Parce que je pense qu'à un moment, j'aurai plus rien à dire.
Que t'arrêtes de faire des trucs créatifs ou des trucs drôles?
Tu vois, une fois que t'as fait... Moi, j'ai fait des trucs drôles, j'ai réussi à faire des trucs drôles pendant un moment. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux faire des scénarios, de films ou de séries.
C'est ce qui te chauffe, ça?
Ça me chauffe, mais j'ai jamais été un bon raconteur d'histoires, tu vois. Je raconte mal les blagues, par exemple, tu vois. J'invente mal les histoires. Je raconte très mal les blagues.
Mais non.
Je raconte pas d'histoire, je me dis pas putain, j'ai envie de raconter l'histoire d'un mec qui machin. Il y a plein de gens qui te disent ça tout le temps. Et ouais, et le gars il part en voyage et il lui arrive ceci et ça. Moi j'ai jamais ça, j'ai jamais ce genre d'impulsion.
Est-ce que tu penses que c'est parce que t'es auto-centré?
Ouh là là.
Je sais pas, mais c'est juste que.
Quoi, t'as réfléchi à ça toi et tu t'es dit ça?
Bah, c'est juste que moi je me rends compte que je sais pas raconter d'histoire d'autres gens parce que j'ai pas d'empathie.
Ah ouais? T'as pas d'empathie, ok. Je vois que je me dis que je vais sortir de cet appartement vivant parce que je vois que ce chat, t'as un chat qui a l'air les gens qui ont pas d'empathie en général, ils s'en prennent d'abord à leur animal de compagnie. Donc Timothée Chalamet, fais quand même attention. Si tu vois ta maîtresse avec un sac plastique, fouille. T'as pas d'empathie.
Mais j'ai très peu, j'arrive pas à me projeter dans les ressentis des autres. Genre, si moi j'aime pas un truc, je comprends pas qu'on l'aime, tu vois. Moi, j'aime pas les cadeaux d'anniversaire. Je comprends pas qu'on aime les cadeaux d'anniversaire. Je déteste offrir des cadeaux d'anniversaire. Ça me casse les couilles.
Ok. Et t'aimes pas quand on offre?
Non. Parce qu'il y a trop de choses à prendre en compte pour l'aimer ou pas. Et je préfère qu'on se mette d'accord sur le fait que faisons pas ça. Parce que je vais pas l'aimer. Je vais m'en vouloir de pas l'aimer parce que les gens ont fait un effort pour me faire plaisir et je vais me sentir comme une énorme connasse.
Ok. Ça va être chouette. Ouais, ça va être cool.
Du coup, raconter des histoires. Ouais.
Bah ouais, mais est-ce que c'est lié à un côté autocentré? Je crois qu'il y a clairement un côté autocentré, en tout cas, quand tu vois ce que je fais sur scène ou ce que je fais en chronique, je parle que de moi, mais je parle que de moi aussi parce que j'ai l'impression d'être le seul. C'est mon seul domaine de compétence, tu vois, plus ou moins, et encore, quoi. Et encore, parfois, je comprends pas comment je fonctionne et je me dis putain, je suis pas fier de comment je fonctionne. Enfin, tu vois, même tu te maîtrises pas toi-même, mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est ce terreau-là, quoi.
Donc personne va te faire chier si tu te trompes sur toi.
Oui. Ouais. Voilà, tu vois, personne va dire, mais non, en 2002, t'étais. En fait, je crois que c'est juste un manque d'imagination, en fait, j'ai l'impression.
Ah ouais?
Ouais, je crois que j'ai pas beaucoup d'imagination. Je crois que j'arrive pas à me projeter dans des histoires ou j'arrive pas à conceptualiser des trucs, j'arrive pas, par exemple, j'ai pas de créativité visuelle, par exemple, tu vois, j'arrive pas à voir, c'est pour ça que je fais jamais de vidéos, etc., parce que je suis nul, j'ai pas de goût, enfin, in fine, tu peux faire des histoires, si t'es plus drôle, et que tu restes dans un métier d'écriture, ou tu peux faire des essais. Et je pense, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour mon cerveau, que j'ai pas grand chose à apporter à l'histoire. De la pensée francophone. J'ai pas grand chose à apporter, tu vois. Donc, c'est soit de faire des blagues, soit de faire des histoires, soit de faire des essais. Et en fait, à un moment, quand la source va se tarir au niveau des blagues, il sera juste temps que je devienne soit un vieux comique vraiment, vraiment ringard, soit autre chose, et que je me rende à l'évidence et que ça marchera plus, tu vois.
Mais t'as l'air déjà pour faire ce podcast, ça a pris 1000 ans parce que tu me disais j'ai pas assez, enfin je suis pas assez sûre de moi machin, alors que c'est vraiment un podcast sur le doute, donc ça va. Et que tes idées étaient pas assez claires machin. Et T'as l'air de jamais être sûr de rien. Comment t'avances?
Bah, j'avance par le, je pense par l'obligation, quoi. Parce que tout d'un coup, t'es à un moment, t'es confronté à l'obligation de faire une chronique dans deux jours. Mmh. Et qu'il faut, tout d'un coup faire abstraction. Et, tu sais, à chaque chronique, l'année passée, par exemple, mais c'est déjà arrivé les années précédentes, mais l'année passée, je pense, une fois sur deux, je me disais, je démissionne. C'est terminé, quoi. Je
commençais avec. Premier
ouais,
degré?
Ouais, ouais. Je me disais, fini, j'ai plus rien à dire, j'ai plus de sujet. Fuck, quoi. Et au final, tu trouves toujours un sujet et tu trouves toujours des trucs drôles à dire. Bon, ça, c'est l'expérience qui me fait dire ça, quoi. Mais au début, chaque fois que je me lance, je me dis, là, je sais pas de quoi je vais parler. Putain, ça fait 200 chroniques que je fais sur France Inter.
200?
Bah, plus ou moins, ouais, tu vois.
Putain.
Mais, et encore, moi, tu vois, imagine les Morgan et Tanguy Pastureau, ouais. C'est Daniel Morin qui en sont à 7000, tu vois. Mm. Mais donc, je me disais, chaque fois, j'arrête, tout terminé, fin de l'histoire, j'ai rien à dire. Et donc, à un moment, il t'est obligé, quoi. Parce que le lendemain, soit tu démissionnes vraiment et tu te retrouves face à un espèce d'abysse, tu vois, où tu sais pas, tu dois sauter et tu sais pas dans quoi tu te retrouves. Ou alors, tu te lances et tu te forces. Et en fait, je crois qu'il faut que je me force, quoi. Faut que je me force, c'est ça qui fait passer les doutes. C'est qu'à un moment, j'y vais, tu vois, parce qu'il y a une échéance.
Et est-ce que des fois, tu essayes de te rajouter justement ces obligations? Genre, t'as commencé 1 milliard de romans. Est-ce que t'as eu... Enfin, tu vois, est-ce qu'une fois, tu t'es dit, ok, je vais en parler avec un éditeur, comme ça, je serai forcé d'aller au bout du truc? Ou est-ce que tu te stoppes avant? Ou est-ce que tu...
Ouais, mais je crois que les dernières tentatives de romans que j'ai fait, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Je me rappelle, j'avais fait un essai à un moment, j'avais fait une nouvelle et tout, que j'avais envoyé à, notamment à Myriam Leroy, des gens comme ça, tu vois, en disant, alors, est-ce que vous trouvez que c'est bien écrit, etc. Genre, mais ouais, ça va, c'est cool et tout. Et puis, j'étais pas allé au bout parce qu'en fait, chaque fois que je relisais le début de mon roman, je me disais, est-ce que si j'étais un lecteur, j'aimerais bien lire ça, quoi. Et en fait, je me disais, non, tu vois, c'est un ramassis de lieux communs, de trucs, etc. Et moi, ce qui me plaît quand je lis un roman, c'est d'être époustouflé, enfin étonné, d'être surpris, d'être emmené, tu vois, vers quelque chose que je connais pas, etc. Et en fait, j'ai l'impression que il y a un hiatus qui est à la base, quoi. C'est-à-dire que forcément, puisque j'ai besoin d'être surpris quand je lis un roman, je peux pas me surprendre moi-même en l'écrivant, tu vois, parce qu'il faudrait que je me dédouble et que. En vrai, je vais te dire la vérité. Je crois que il y a que dans mes rêves. Parfois dans mes rêves, je me dis putain, et je rêve de, et je me dis ce scénario, il était dans mon rêve. C'est un scénario de dingue, quoi. C'est incroyable ce que je viens de rêver. Je l'oublie 3 minutes après, mais je me dis ce que je viens de rêver, ça c'est vraiment un scénario de film, quoi. Puis je l'oublie. Mais dans mes rêves, je fais vraiment des trucs créatifs, tu vois. Genre cette nuit, j'ai rêvé que tu me faisais une sélection de fromages. Je jure.
Attends-tu moi?
Ouais. J'ai rêvé que tu me faisais une excellente sélection de fromages. Merci Fanny, etc. Mais tu sais que je suis plus pâte dure et tout. Tu me disais, non, pas de problème, mais regarde, il y a du gruyère et tout. C'est assez étonnant quand même.
Mais justement, hier, j'ai mangé une raclette. Peut-être on était un peu liés, tu vois. C'était. Par définition, enfin, l'humour, c'est un peu un truc de loser. C'est toujours, on va raconter les choses qui ont foiré plutôt que celles qui ont fonctionné, parce que sinon, c'est pas full drôle. Est-ce que c'est un truc que t'avais déjà avant de faire de l'humour, ou est-ce que ça l'a aiguisé que t'en fasses, ou les deux?
Bah, en fait, j'ai pas de mémoire.
Merci Guy.
Non, alors la réponse que je vais te donner, c'est une réponse d'intuition. Je pense que j'ai toujours fait des blagues depuis tout petit, tu vois. Et j'imagine que je faisais des blagues de loser, forcément, tu vois. Enfin, que je dédramatisais toutes les situations et que je me mettais en scène dans des postures un peu... J'ai toujours eu de l'autodérision, je pense. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'avais tendance à prendre tout par le biais de la blague. Je suis devenu humoriste un peu par hasard, mais c'est pas pour rien que je suis devenu humoriste non plus, quoi. Tu vois? Mm. Dans le sens où j'étais pas prédestiné à ça, et je pensais pas le faire. Mais que c'est pas si illogique que ça que je le sois devenu, tu vois? Parce que je faisais vraiment des blagues... dans mes articles, je faisais des blagues sur mes statuts, je faisais des blagues dans la vie. Et je suis clairement devenu beaucoup moins drôle dans la vie depuis que je fais de la scène, quoi. Mais genre, vraiment, clairement.
Ah, parce que quand on te fréquente, on te paye pas, donc on vaut pas la peine.
Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que je crois que tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Tu vois, il y a des gens qui restent. Moi, je connais des gens, des humoristes qui sont drôles tout le temps, quoi. Tu vois, qui continuent à être drôles, mais qui sont drôles. Un Baptiste Le Caplain, par exemple, c'est un mec qui est drôle en permanence, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis pas comme ça, quoi. Je peux pas, j'arrive pas. En fait, j'arrive. Je crois que j'ai une dose de blague aussi. Je crois qu'il y a une dose de sinistre et une dose de marrant dans chacun d'entre nous, tu vois. Et je crois que ma dose de blague, en fait, je crois que je la laisse un peu dans mon travail, en fait. J'en donne trop dans mon travail, tu vois. Et du coup, dans la vie, je suis plus à l'écoute, en fait, maintenant. Je me rends compte, je suis plus à l'écoute. J'ai moins besoin d'être aussi. En fait, j'ai moins besoin aussi d'attention, quoi. Parce que l'attention, je la reçois quand même beaucoup et en grosse quantité quand je suis sur scène ou à la radio ou. Enfin, dans ma vie publique, si tu veux. Et du coup, dans la vie de tous les jours, je m'efface beaucoup, beaucoup plus qu'avant, quoi. Je suis beaucoup plus dans les dîners et tout. Enfin, j'écoute, je veux plus tout d'un coup être le bout en train. J'ai moins besoin de ça, quoi. J'ai moins besoin d'être le centre de l'attention, si tu veux.
Ok. T'as fait plein de choses avant d'être humoriste. T'as fait du foot et t'étais censé faire ça dans ta vie. Enfin, genre, c'est le truc que tu voulais faire et tout. Et puis, quand ça a plus été possible, quand la seule perspective à laquelle t'avais pensé s'arrête, comment tu te sens? Comment tu vois le futur?
Ben, le seul point positif, c'est que j'avais continué malgré tout en parallèle avec le foot, j'avais continué mes études, si tu veux. Donc, je faisais Sciences Po à l'UNIF et tout. Mais je m'étais dit, quand j'étais à Sciences Po, même quand j'étais en troisième ou quatrième, je me disais, si là maintenant j'ai un contrat pro qui tombe, fuck les études du jour au lendemain, quoi. Je m'en foutais alors que je faisais plutôt de bonnes études, quoi. Même si Sciences Po Bruxelles, c'est pas non plus. Enfin, Sciences Po Bruxelles, c'est voilà, quoi. C'est pas réputé, mais bon, je l'avais quand même fait. Donc je me disais, le foot, en premier, depuis le foot a pas marché. Et effectivement, bah, là, il faut se. Ouais, il faut se réinventer, se relancer un défi. Je me suis barré quand le foot s'est vraiment arrêté pour de bon, je me suis barré en Espagne, quoi, tu vois. Là, j'ai voyagé, etc. Ça m'a permis aussi un peu de m'aérer l'esprit.
C'est le tour du monde qui a fait qu'un pays?
C'est le tour du monde le plus claqué de l'histoire. Imagine si Christophe Colomb, il avait fait ça, tu vois. Il était parti de Gênes, puis il est arrivé, je sais pas, en Espagne ou au Luxembourg, tu vois. Puis là, il a fait, c'est bon, je reste. Je vais à Eschuralzette, il y a des phares de cigarettes, ça me suffit. En fait, non, ouais, j'ai fait ce truc-là et j'avais vraiment l'ambition de faire un tour du monde et tout. Et puis ça s'est fini un peu misérablement. Et puis après, j'avais quand même l'ambition de recommencer à voyager. Et puis finalement, je suis devenu journaliste et voilà. Puis j'ai commencé à avoir peur de l'avion et puis j'ai plus voyagé. Et donc,
t'as
voilà.
Commencé à avoir peur de l'avion?
Ouais, en fait, j'ai eu un stress quand j'étais en Afrique. Tu vois, parce que quand même, j'étais en Afrique.
Oh!
Après Madrid.
Moi, je pensais que vous y étiez vraiment arrêté en Espagne.
J'ai fait un an en Espagne, et puis après de là, je suis parti un mois en Afrique. Enfin, j'ai fait Sénégal et Guinée-Bissau, tu vois. Et en Guinée-Bissau, je me suis retrouvé dans un bateau, et j'ai clairement cru que j'allais mourir. Mais genre, vraiment, j'ai vu la mort arriver comme ça. Je me suis dit, je vais mourir, en fait. Vraiment, j'ai cru vraiment que j'allais mourir, on va dire. Je dis pas que c'était objectif, mais enfin, il y a quand même dans le bateau plein de gens qui priaient, machin, etc. Et donc, on était au milieu de nulle part. Et comment te dire que je suis pas non plus le meilleur nageur de ma génération? Donc, clairement, si on était tombé à l'eau, tu vois, j'aurais fait 10 minutes pour le fait, quoi, je le tente.
Ouais.
Et puis, j'aurais coulé comme une merde. Et donc, en fait, après, j'ai commencé à avoir peur de l'idée d'avoir peur de mourir, tu vois. Comment dire? Comme je me suis vu avoir peur de mourir, j'ai détesté cette sensation-là.
Ouais. T'as eu peur de l'angoisse ressentie et tu voulais pas qu'elle recommence.
Et du coup, quand je suis en avion, j'ai peur du moment où je vais savoir qu'il y a un problème et quand je vais mourir. Tu vois, je veux plus revivre ça, quoi.
Ouais, ok.
Et c'est ça après, ça m'a bloqué en avion, en fait. Alors que je prenais l'avion relax avant, tu vois. Et j'avais pas de problème avec l'avion. Et depuis lors, j'ai une phobie de l'avion. Et donc, ça m'a empêché de voyager, etc. Dans ma vie, quoi.
Et t'as peur d'autres trucs
J'ai peur des chats qui lapent mon verre d'eau, par exemple.
C'est chez lui, hein.
Oui, mais ça ne te donne pas. Timothée, un minimum de savoir-vivre, s'il te plaît. J'ai peur de plein de trucs. Enfin, je suis une flippette pour tout. J'ai peur de tout. Je suis vraiment le type le moins courageux de sa génération, je pense.
Arrête de te vanter.
pardon. je suis dans le top 17 probablement, ouais, en Belgique, que... en Belgique francophone, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, top 17.
Là. Mais j'ai lu que tu disais que t'étais souvent dans les bons mais jamais le meilleur dans tout.
Bah ouais, je pense que ça se toute proportion gardée, ça s'applique encore à ce que je suis aujourd'hui dans le stand-up quoi, tu vois.
Mais est-ce que c'est t'as pas beaucoup d'ambition ou est-ce que tu t'en fous, enfin tu vois.
Non, je crois que j'ai on a tous un certain degré de talent et de volonté, et que moi mon talent et ma volonté bah ça se confronte à une barrière à un moment quoi, tu vois. Quand j'étais à l'école c'était comme ça, tu vois, à l'école j'étais 5e de 4e de classe ou 3 ou 5e de classe, tu vois. Mais c'est bien aussi.
Oui, mais c'est super.
Il faut pas tout le temps être, enfin je pense pas qu'il faille tout le temps être le plus fort, le plus beau. C'est bien aussi de pouvoir être non, je sais pas.
Mais absolument. Mais oui, je suis d'accord. Non, je souris parce que je trouve ça mignon de, je sais pas, de dire ça.
Bah c'est vrai. Tu peux essayer. Tu fais le mieux que tu peux, tu vois. Mais à un moment, si tu peux pas aller plus haut ou, tu vois, moi je crois que je vais pas laisser une trace, tu vois, dans le stand-up quoi. Tu vois, je pense, ça marche bien. Pour moi, à mon niveau, tu vois, je remplis des salles correctes et les gens sont contents. Mais j'ai pas l'impression que je vais faire un zénith, quoi. Ou que je vais faire...
Un zénith, c'est combien de places?
5000 ou un... Ou... C'est bien, je pense qu'à un moment, il y a un plafond et il faut savoir se dire c'est bien, tu vois. Moi, je crois que c'est bien. Là, si j'extrapole ta question et que je l'applique au stand-up et à ma position dans le stand-up... Si je peux être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, théoriquement, c'est quand même vachement bien, quoi. Tu vois ? De me dire vive de mon métier, aller chercher mes croissants avec le mec de la boulangerie qui me dit « Ah putain, c'est cool ce que vous faites, ça c'est chouette, quoi. » C'est bien, en fait, non ?
Je
crois pas qu'il faille... C'est bien, moi je trouve ça super. Et c'est pas que j'ai pas d'ambition, hein, mais juste...
Qu'est-ce que t'aimerais ? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux de plus que ce que t'as maintenant ? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, ouais, c'est pas grave si ça arrive pas, mais ça, quand même, ça me ferait quelque chose, je serais vraiment fier.
Ouais, je crois que réaliser un film qui tue, ça va être bien, quoi.
Réaliser ?
Ouais. Je crois que réaliser un film qui... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc pendant le confinement, c'est que j'aime quand même bien le cinéma, quoi. J'aime bien les films, en fait. Et... J'ai toujours aimé ça, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir critique cinéma. J'ai fait des études de cinéma. J'ai fait des études d'écriture de scénario à l'ULB. Okay. J'ai fait réalisation à Madrid. Mais je te parle de ça il y a 20 ans. Hein. Après, j'ai pas persévéré et tout. Mais à un moment, par exemple, au journal, quand je travaillais au journal le soir, il était question qu'il y avait un journaliste qui était le journaliste film, enfin cinéma, quoi, attitré de la maison. Et qui se barrait, et j'étais dans les 2-3 candidats pour reprendre le poste cinéma, tu vois. Et vraisemblablement, si j'avais chopé ce poste-là, je serais pas du tout en train de te parler aujourd'hui, quoi. Je serais certainement, parce que je pense que ça fait partie des métiers qui sont des métiers où tu restes, quoi. C'est quand tu deviens critique ciné, bah c'est cool, quoi, critique ciné. C'est sympa, tu vois. Tu regardes plein de films, tu vas à Cannes, machin. Je pense que t'as pas spécialement envie de changer de vie de la même manière que j'avais envie de changer de vie à l'époque. Puisque à l'époque, j'étais pas satisfait dans le journalisme, etc. J'ai changé de vie, ce qui a mené à moi qui fais des blagues. Et donc, le ciné, c'est vraiment un truc qui me passionne depuis toujours, quoi. Et en fait, je me dis, si j'étais capable de réaliser un truc qui tue, je sais pas, un vrai polar ou un machin comme ça, quelque chose que j'aimerais bien regarder moi. Ça, ce serait un accomplissement, tu vois.
Mais là, est-ce que tu arriveras à te surprendre ?
Ouais, peut-être. Je sais pas, je crois que c'est grisant, quoi. Moi, j'ai réalisé un court-métrage dans ma vie, mais c'était vraiment... j'ai dit à Madrid.
Ok.
Dans mon espèce de truc de fin d'études, c'était... c'était vraiment... J'ai réalisé ce truc. Enfin, c'était moi qui l'ai... J'ai pas réalisé, j'étais le réalisateur, si tu veux. C'était une espèce de truc de classe, comme ça.
Pas réalisé, j'étais le réalisateur.
Non, mais... Ouais, mais c'est parce que ça fait comme si j'avais réalisé, comme si c'était mon projet, mais en fait c'était un projet collectif de la classe. Et j'ai réalisé ce truc et c'était le monteur, quand on arrive avec les images, il a dit c'est le pire truc que j'ai jamais vu de ma life. Il y avait des plans. Genre, tu vois, on faisait un espèce de plan circulaire comme ça. On se mettait, il y avait un plan où c'était quatre personnes autour d'une table qui préparaient un braquage. C'était une table ronde comme ça, tu vois. Mmh. Et donc, l'idée, c'était qu'on voulait faire un plan au milieu, avec la caméra au milieu. Donc, pour ça, il fallait que tu vires la table. Tu vires la table, tu te mets au milieu et tu tournes circulairement sur chacun des personnages, tu vois. Et on avait fait ça. Sauf que on avait foutu la table juste à côté, quoi. Meuf, on voyait la table dans le champ. La table qui était à côté, on la voyait dans le champ. Meuf, on voyait sur un fauteuil des gens qui étaient cachés sur le fauteuil. On les voyait dans... Et le monteur, il a dit, mais les gars, vous êtes sérieux? J'avais pas vu ça, quoi. On n'a rien vu, tu vois.
Ah, wow.
Ah, c'était formidable. Moi, j'ai ce truc à la maison, c'est collector. Hein. Je peux dire le... Mais par contre, l'expérience de réaliser un court-métrage, c'était dingo, quoi. J'ai adoré, quoi. Je trouvais ça incroyable, j'étais vraiment grisé à fond. Je me suis dit, quand est-ce que je fais le prochain et tout. Je me rappelle, j'étais rentré en Belgique à ce moment-là et j'étais allé chez ma sœur et ma sœur, elle avait un chien. Et donc j'avais pris une caméra et j'avais fait un espèce de petit truc dans lequel il y avait une famille qui bouffait le chien. Donc on avait foutu le chien dans une casserole. Enfin, c'était un truc chelou, mais bon. Et puis j'ai pas persévéré. C'est con, hein. Tu vois, j'aurais peut-être pu faire un truc, je sais pas. Mais ça, si tu me demandes. Est-ce qu'il y a un truc dont tu rêves? C'est peut-être professionnel, enfin artistiquement, on va dire. C'est probablement ça, ouais.
Mais il y a 20 minutes, t'as dit que t'avais aucune imagination visuelle.
Bah c'est pour ça aussi que c'est un rêve et que je le fais pas, tu vois. Autrement, je le ferais.
Ah, c'est un rêve comme ça, pas un rêve genre un jour là.
C'est pas un projet, c'est un rêve.
Ok, mais et c'est depuis le confinement aussi que tu t'es beaucoup plus, j'ai l'impression, dans des films, à faire des castings pour des rôles.
Ouais. En vrai, ce qui s'est passé, je vais te dire, tu sais, moi, j'ai refusé au cinéma plein de films, tu vois.
Ouais.
On m'a proposé, plein de films. J'ai refusé. En tout cas, j'ai refusé de caster 6, 7, 8 films.
Mmh.
Dont 2 ou 3 où j'avais le rôle.
Ouais.
Je pense. Parce que je trouvais que les scénarios étaient pas marrants et que je me voyais. Je trouvais que ça servait à rien et que ça avait pas de sens. Et que... Puis j'ai accepté le film de Kéron, Brutus contre César, ouais. Parce que Kéron. C'est difficile de refuser quelque chose à Kéron, quoi. Il t'appelle, il fait putain Kéron, il m'appelle, il me dit voilà, efface ton agenda, dans 3 jours tu viens avec moi à Warzazat. Oh, Kéron, tu te racontes. Non, non, j'ai un film, le casting il est dingue, ça va être super. Je dis Kéron, je suis pas un acteur. Tu, ah, ça va, je vais le diriger, ça va être terrible. Puis tu te dis bon, ben, je vais aller à Warzazat 5 jours, jouer avec Ramzy, Pierre Richard, Thierry Lhermitte, machin. C'est rigolo, quoi. Pour l'expérience, ouais, c'était rigolo, ouais. Tu vois. Bon, il s'avère que j'ai joué dans le film de Kéron et que j'ai été coupé au montage à juste titre, j'ai l'impression, parce que c'était une scène marrante et je crois que j'ai niqué sa scène marrante, quoi. Je crois.
Pourquoi?
Je sais pas, c'était un gag en fait. Il était assez content du gag. Et c'était moi qui devais l'incarner, si tu veux. Mais je devais mourir et tout. Et je devais. J'avais un énorme bouton de fièvre.
Je m'attendais pas à ça.
Meuf, j'avais un bouton de fièvre de l'espace. Et j'étais en gros plan. Et je devais jouer un espèce de gladiateur comme ça, tu vois. Donc c'était pas crédible. Et je devais me faire trancher la gorge. Et donc, il y avait un cascadeur qui m'apprenait à me faire trancher la gorge et tout. Et je crois qu'il était pas, et Kéron, je crois qu'il était pas content du truc. Il m'a coupé au montage. Et donc, j'ai, dans ce film, j'ai une demi-scène où on voit 4 secondes où je fais, vous m'avez dit, vous voulez un plateau de fruits. Ça, c'est la seule phrase que j'ai, pour le moment, au cinéma, c'est la seule phrase que j'ai.
Ouais, t'as été coupé dans celui de Melra aussi.
Ouais, tout à fait.
Mais en fait, chaque fois que tu tournes, j'ai l'impression que t'es malade.
J'étais malade aussi, ouais, dans celui de Melra, mais vraiment, genre, malade. J'ai le nez bouché de ouf et tout, et je devais dire des trucs vraiment hyper, je devais dire, j'ai envie que tu t'assoies sur mon visage et qu'on aille aux toilettes. Enfin, tu vois, un truc de pervers, mais ouais. J'avais le nez bouché, quoi. Donc, tu vois, ça donnait un truc un peu space. Et donc, ils ont coupé au montage. Honnêtement, là, j'étais content parce que je me trouvais vraiment nul, quoi.
Mm.
Vraiment, là, je me voyais jouer. Je me disais, putain, catastrophe, quoi. Vraiment, je le sentais, quoi. Mais c'est difficile. En fait, quand tu fais des petites apparitions au cinéma, c'est difficile, hein. Parce que tu dois être là, dans une équipe, avec des gens qui sont là depuis le début, qui ont leur rôle. Je te parle pas quand tu joues le premier jour, mais quand tu joues après 10 jours de tournage ou 20 jours de tournage et t'arrives et tout d'un coup, toi t'as 2 répliques et tu dois être juste, quoi. C'est compliqué, quoi, en fait. C'est c'est le plus dur, j'ai l'impression, au ciné. Quand tu peux rentrer dans ton rôle, préparer, machin, etc. Ouais. Mais quand on te dit, voilà, tac, sois juste sur des répliques qui sont pas toujours, soit marrantes, soit bien écrites, soit, soit qui te conviennent ou qui te ressemblent, c'est chaud, quoi. Bref, anyway, je fais une longue insiste sur le ciné, mais c'est pour te dire que j'avais refusé plein de trucs et j'avais accepté ça. Melra parce que c'est ma pote, et Kéron parce que j'aime bien Kéron et que plus je trouvais le truc intéressant. Mais du coup, j'avais refusé plein de trucs et tout. Et pendant le confinement, je me suis dit, en fait, de un, c'est pas gagné qu'on recommence à jouer sur scène. C'était pas sûr, tu vois.
Ouais.
Comment, à ce moment-là, tu sais, au début, qui aurait pu dire quoi que ce soit sur l'avenir, tu vois, quand on te disait, là, au début, il faut laver tes courgettes avec de l'eau de Javel, là, tu vois, tu te rappelles ce moment-là où tout le monde était stressos, on savait pas, quoi. Ouais. Et de deux, je me suis dit, en fait, la vie est courte, quoi. Je me suis dit, j'aimerais quand même bien un moment, faire une autre expérience, quoi, faire autre chose, tu vois. Je me suis dit, la vie est courte, si je meurs demain, j'aurais fait un film, quoi. Tu vois, donc j'ai accepté deux, trois projets comme ça. Et troisième raison, c'est qu'en fait, je me suis dit, je refuse tout. Mais in fine, si jamais je me retrouve avec un chouette projet ou un chouette rôle, je vais arriver un peu vierge d'expérience, quoi. Or, j'ai l'impression que c'est pas mal d'avoir un peu l'habitude des caméras, l'habitude des équipes, l'habitude des figurants et tout, si tu veux un jour arriver et faire quelque chose de bien, quoi.
Et le roi de la vanne, t'avais pas déjà...
Oui, mais une fois encore, le roi de la vanne, c'était vraiment... J'ai l'impression que je mets ça un peu en dehors parce que le roi de la vanne jouait mon propre rôle, tu vois, quelque part. Et c'était mes mots à moi. C'est moi qui écrivais pour moi, quoi. J'écrivais dans ma... Je mettais... Qu'est-ce qui sonne bien dans ma bouche, en fait. Tandis que dans un film... Le réalisateur ou la réalisatrice peut s'adapter un peu à toi, mais in fine, ça reste quand même les mots de quelqu'un d'autre en général, tu vois. Et donc, c'est. Mais pour te dire, par exemple, dans le truc de Kéron, il y avait vraiment des dizaines et des dizaines de figurants, quoi. Et tout d'un coup, tu te retrouves et tu dois être performant face à je sais pas combien de personnes, l'équipe, elle est immense et tout. Et ça te permet, si jamais plus tard, t'as un rôle qui est un peu plus conséquent, de peut-être avoir un peu plus d'expérience, quoi. Mais là, j'ai un film qui va sortir là, le 25 août.
Fragile.
Ouais. Dans lequel j'ai un vrai rôle, quoi, pour le coup.
Avec, je ne sais plus son
avec
nom.
Avec Yacine Ouicha et Ouleya Mamra.
Ouais, putain, j'aime tellement cette meuf.
Ouais, elle est super, super actrice, ouais, incroyable. Ouais. Enfin, elle est très très bon. Enfin, le film, je pense, je ne l'ai pas encore vu, à vrai dire, mais je pense que le film est bien, parce que tout le monde m'en dit du bien, donc...
Ok. Et donc toi, ça cool. T'a... Donc là, c'est ton premier vrai rôle.
Enfin, vrai rôle, c'est un quatrième rôle, c'est un troisième rôle, quatrième rôle, mais qui a bougé de vraie scène, quoi, tout d'un coup.
Et ça t'a fait quoi?
Ouais, c'est... le cinéma, c'est beaucoup d'attente. Hein. On avait une blague là-dessus, tu vois. Vous êtes toujours ce running gag, quoi, ça. Le cinéma, c'est, tu sais, parce que honnêtement, c'est vraiment beaucoup d'attente, quoi. T'es tout le temps en train d'attendre que la lumière se remette mieux, que ceci, que le. Mais ouais, ça m'a fait quoi? C'était. Ouais, je sais pas, c'est une expérience, mais en effet, là, et je te rejoins, c'est pas si différent que le roi de la vanne, finalement. Dans le fait de tourner avec.
J'ai vu dans la bande-annonce, tu montes ta bite.
Alors, c'est plus complexe que ça. Mais oui, donc, expérience. Mais là, je vais tourner en Grèce, dans un film avec Marc Fitoussi, qui est un réalisateur que j'aime assez bien, qui fait des comédies toujours un petit peu décalées, comme ça, que je trouve assez intéressante et fraîche. Et voilà, pour le moment, j'ai pris un agent. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pris un agent.
Allez.
Là, c'est là où je voulais en venir pour... C'est bien parce que je suis quelqu'un de concis et c'est important et j'arrive à bien ramasser mes idées assez rapidement pour qu'elles soient expédiées le plus vite possible. Non, en fait, j'ai pris un agent parce que je me suis dit, tant qu'à faire, moi je voulais pas faire de casting, etc. Ça me gonflait de faire des castings. Laisse-moi tranquille, il y a des acteurs qui sont là pour ça. Moi, si vous voulez vraiment que je joue avec, prenez-moi, me cassez pas les couilles et faire des castings. Et in fine, je me retrouve à faire des castings. Tu vois? Comme quoi, en fait, j'ai zéro principe dans la life. Et en fait, c'est quoi? Je trouve ça plutôt rigolo, le casting, en fait. Alors que c'était un truc qui me terrorisait, que je trouvais vraiment... Je trouve ça plutôt cool, finalement.
Pourquoi c'est rigolo plus. Parce que c'est... J'ai l'impression que t'es très control freak dans tout, mais là, t'es entièrement dépendant de la volonté de quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas les mêmes goûts que toi.
Oui, je sais, mais tu... En fait, j'ai appris un truc, c'est que, en fait, tout simplement, il fallait juste bien connaître son texte. Ça m'a changé la vie, en fait, quand j'ai appris ça. Quand j'ai compris qu'il fallait juste connaître ton texte... Une fois que tu connais ton texte, après, tu... Jouer, c'est marrant. En fait, c'est marrant, jouer, je crois. Jouer, c'est marrant. C'est pas... Et donc, du coup, tu t'en fous un peu de si toi, tu as l'impression d'être OK et que la personne te dit, en général, les castings, les gens te disent, c'est bien, ou ça va, ça, on, ou peut-être le joue un peu différemment et te guide un peu, tu vois. Mais il n'y a personne qui te dit, non, hein, pas du tout, ça c'est vraiment dégueulasse, c'est pour, enfin, moi, en tout cas, ça m'est pas encore arrivé. Et donc, oui, t'es dépendant de la volonté des gens, mais si tu t'en fous, en fait. C'est ça aussi la clé.
C'est ça la clé, s'en foutre.
Bah ouais. Moi, je m'en fous. C'est-à-dire que si je joue dans un film, c'est bien. Si je joue pas dans un film, je m'en bats les couilles, quoi.
Ouais, vraiment. C'est parce que c'est pas ton.
C'est pas mon corps business. Et donc, tant mieux, quoi. Si ça, si. Là, j'ai fait les castings. Et franchement, j'ai été pris sur trois des quatre ou cinq castings que j'ai fait, tu vois.
Ok.
Mais s'ils me disent non, ça se fait pas, le projet se fait pas, ma vie, elle continue, quoi. J'ai pas. J'ai pas spécialement besoin du cinéma non plus, quoi. Puis ça vient, c'est marrant, ça vient pas, c'est pas grave. Okay. Ah, donc je pense que si t'es dans cet état d'esprit-là, et je crois que je suis pas le seul à te le dire, plein de gens qui font les castings te disent, quand je m'en fous, c'est toujours là où je suis le meilleur.
Ah ouais.
Mais je crois qu'en fait, c'est la base, quoi. Et je vais te dire, c'est pas que Jacques Audiard m'a appelé pour me dire, j'ai un premier rôle pour toi et où tu arrives le casting, là c'est vraiment un game changer. Je vais dire, le seul casting où j'ai vraiment flippé, c'était pourquoi ? C'était pour La Flamme. Avec Jonathan Cohen, tu vois. Jonathan Cohen, il m'a demandé, vas-y, il m'a dit, viens, il faut que tu passes le truc et tout, ce serait cool que tu le fasses et tout.
Pour jouer ?
Pour jouer le rôle de, que Vincent Dedienne a eu finalement.
D'accord.
C'est Dedienne qu'il a eu et donc le présentateur de truc. Et moi, j'étais à fond parce que je me disais, putain, La Flamme. En plus, Jonathan Cohen, j'adore Jonathan Cohen, quoi, tu vois, pour le coup, ça aurait été incroyable. Le casting était dingue, etc. Enfin, je trouvais ça aurait été vraiment marrant à faire. Et donc, j'étais stressé. Donc, je suis arrivé là-bas un peu tendu et tout. Après, voilà, je l'ai fait, il m'a dit que c'était bien, je l'ai pas eu, et voilà. Vincent Dedienne, il est fort, donc il y a pire, quoi.
Ouais.
Si on me dit tout d'un coup, c'est...
Ah
oh putain, j'ai failli faire un truc vexatoire. T'as vu ou pas, j'ai failli...
Ouais. Et je me suis dit, mais ça ne te ressemble pas.
Non, mais prenons que ce soit, je sais pas. Non, je sais pas, peu importe. Bref.
Je mettrai le son de toi qui te mouche. Comme ça fera genre, il a balancé ce fils de chien.
Vas-y, mais dis un acteur que t'aimes pas du tout. Ou que tu trouves vraiment pas bon.
En fait, souvent avec les acteurs, j'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est mal écrit ou si c'est parce que c'est mal joué.
Okay.
Donc, je sais pas. Et puis, j'y connais tellement rien en cinéma, je sais pas du tout.
Très bonne réponse, tu vois. Tu fais un peu la meuf qui va balancer, finalement.
Ah, mais moi, mais non, mais je vois pas l'intérêt de parler de gens qu'on aime pas.
Exactement, je suis bien d'accord, c'est pour ça que je le fais pas.
Donc, de base, on parlait du fait que t'as eu 4 milliards de carrière avant. Notamment aussi, t'as bossé dans le monde de la nuit. Et un des points communs entre le foot, l'humour et le monde de la nuit, c'est que dans les trois cas, tu fais ton taf pour faire kiffer les autres. Est-ce que c'est un truc qui était un peu conscient ou est-ce que c'est juste ça s'est retrouvé comme ça.
Attends, donc tu disais le
foot.
Monde de... Ah ouais, le foot.
Donc tu vois, tu fais que des trucs qui procurent des émotions aux autres, bon, à toi aussi. Mais c'est quand même toujours des trucs où des masses se déplacent pour venir profiter de quelque chose.
À fond. Et je pense que c'est... je crois que c'est plus égoïste que ça, en fait. J'ai l'impression. Je crois que c'est beaucoup plus égoïste que ça. Je crois que c'est fortuit. Enfin, c'est pas fortuit. En fait, c'est pas fortuit. Je crois que c'est lié. J'ai pas encore établi la connexion entre les deux. Mais clairement, je fais pas de l'humour pour les gens, quoi. Je faisais du foot parce que je kiffais le foot, quoi. Je faisais pas du foot pour faire kiffer les supporters. Hein. Enfin, je faisais du foot pour me faire briller devant des gens
Ouais, mais il y a ça, il y a ce truc de toi, tu fais un truc, tu le fais tellement bien, les gens... Et tu vois que tu procures des émotions de ouf à des gens par un truc que t'as fait toi. C'est malade, comme...
Ouais, je me demande si c'est pas juste une question de centre de l'attention et que t'as envie d'être le centre de l'attention et que pour ça, il faut qu'il y ait de l'attention, quoi, en fait. Tu vois. Et je pense que... Dans le monde de, quand je faisais du foot, c'était vraiment parce que j'étais passionné par le foot et que c'était vraiment, et que je pense que c'est le seul truc pour lequel j'étais vraiment doué, vraiment naturellement, quoi. C'est vraiment, quand tu dis à des gens qu'on est un truc inné, moi j'avais ça dans le foot, quoi. C'était vraiment inné. Dans la nuit, c'était parce que j'avais envie de sortir un peu de la norme, quoi, sortir un peu de la masse, tu vois, quelque part, d'être un peu le mec qui est plutôt que d'être un quidam dans la foule, d'être tout d'un coup manager ou directeur artistique ou un truc comme ça, tout d'un coup ça me sortait un peu aussi de ça, parce que je crois que fondamentalement c'est vrai que quand j'étais petit, si j'ai jamais eu de velléité à être un humoriste ou un truc comme ça, j'ai toujours eu un problème avec l'idée de me conformer, quoi, d'être pareil que tout le monde, tu vois. J'ai toujours voulu un peu me sortir, quoi, du lot, en fait. J'ai toujours rêvé, fantasmé ça, en fait. Quand j'étais petit, je me fantasmais différent, quoi, si tu veux. Je voulais avoir une vie différente, je voulais pas me marier, pas avoir je voulais pas avoir une vie comme tout le monde, si tu veux. Déjà quand j'étais petit, quoi.
Ouais.
Je crois que l'idée de me retrouver au centre de l'attention me procure ça, quoi. Cette espèce de sentiment d'avoir d'être un moment de ma vie sorti de cette condition dans laquelle je voulais pas rester, si tu veux. Et du coup, forcément, plus t'as de l'attention, plus t'as du monde qui te regarde, forcément, plus t'as cette espèce de sentiment de singularité, quoi. C'est ça, c'est un peu le truc. Mais clairement, je me dis pas, pour l'humour, pour revenir à ça, à aucun moment je me dis, j'ai un devoir de faire kiffer les gens et les gens qui disent mon public.
L'angoisse.
Ça me fout le cafard, quoi, tu vois. Moi, je le fais pour moi, quoi, clairement. Je le fais pour moi. Parce que c'est pour mon plaisir personnel. Et tant mieux qu'il y ait 50, 100, 1000 personnes qui aiment ça, tu vois. C'est vrai que parfois, même, c'est tellement égoïste, c'est tellement pour moi que parfois, je me dis, ah oui, mais en fait, il y a vraiment des gens qui font la démarche de venir, qui achètent un billet, qui payent une place et tout. Et ça me semble tellement étonnant que parfois, je suis obligé de me dire, oula, en fait, non, et mec, tu dois jouer aussi pour les gens, quoi. Et pas juste pour te faire kiffer et te dire, je vais raconter des blagues et ça va être chouette et je vais passer un bon moment, quoi. Parfois, parce que parfois, t'es dans t'as pas envie, t'es déprimé, t'as pas passé une bonne journée, t'as pas la tête à ça, c'est bien, c'est pas à toi que je veux dire que parfois on est down. Et du coup, si tu te dis, ben non, aujourd'hui, j'ai pas envie, je me ferme, c'est pas cool pour les gens qui ont...
Parce qu'il y a vraiment eux pour la première fois.
Ben à fond. Mais moi, j'ai tellement pas de conscience du public. Je crois qu'un mec comme Alex, par exemple, Vizorek, il a plus une conscience, c'est plus un artiste plus traditionnel dans ce sens-là, tu vois. Un artiste qui parle à son public, tu vois. Je pense. Il a plus quelque chose de...
Ben de plus théâtral.
Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas ça du tout. Et je suis toujours étonné de voir des gens qui je me dis, putain, il y a quand même des gens qui sont là et tout, genre en masse en plus. Je trouve ça toujours très particulier, très spécial, quoi. Mais bon, voilà, in fine, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas forcément une coïncidence, c'est lié, le fait qu'il y ait du monde pour regarder ça, mais je crois que j'ai besoin de monde pour me sortir du monde, tu vois.
J'ai lu ou entendu, je sais plus, que tu disais que le foot aussi, que tu préférais, genre, tu préférais supporter la Belgique quand ils étaient vraiment des losers et que tout le monde s'en battait les couilles et que maintenant tout le monde est en mode, ouah, ça te chauffe moins.
Ouais, à fond.
T'es un peu un gamin de merde, en fait.
Enfin, c'est pas. Je sais pas. C'est complexe mon rapport à la Belgique. Je sais pas. Tu sais que là, cette année-ci, c'est vraiment la première année où j'étais à fond, vraiment à fond avec les Diables Rouges. Les autres années, c'est vrai que je préfère un peu la loose, quoi, tu vois. Que tout d'un coup, en fait, je nous aimais bien, loser, en tant que peuple, si tu veux. Et là, tout d'un coup, l'idée qu'on soit là, putain, ça marche et tout d'un coup, on devient un peuple gagnant, ça m'angoisse, en fait. Ça m'a angoissé sur les années où la Belgique a monté. Je nous aime bien en perdant magnifique, tu vois. Je trouve ça.
Mais il n'y a pas un risque de se complaire là-dedans? Surtout quand on fait de la comédie ou des trucs où il y a beaucoup d'autodérision, d'un peu aller limite chercher la loose, tu vois.
Non, je sais, clairement, bien sûr. Tu parles pour notre métier, là, ou tu parles pour...
Métier. Non, ouais. En fait, les deux.
Mais tu sais que nos vies, elles sont plus naturelles, tu vois. Nos vies, elles ont... Une fois qu'on est monté sur scène, nos vies, elles ont arrêté d'être naturelles. C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose, après combien de secondes, tu dis, oula, ça serait quand même pas mal que cette anecdote, elle se termine de cette manière-là, tu vois. Combien de fois t'es pas déçu parce qu'une anecdote, elle se termine bien,
ouais.
Ou qu'en fait, elle a bien commencé.
Il n'y a pas de chute.
Il n'y a pas de chute. Tu vois, c'est comme ça, nos vies, elles sont comme ça maintenant. Donc forcément, on est dans un truc de... On aimerait bien, dès que tu vis une histoire un tant soit peu hors norme, tu sais que ça va terminer dans un sketch. Donc forcément, t'as envie que ce soit le plus marrant possible à la fin.
T'as déjà fait des trucs soit pas ouf, soit incompréhensibles, juste parce que t'allais chercher la chute.
Ouais, non, je sais pas si j'en suis à ce stade-là quand même. Non, j'ai pas. Après, je te dis une fois encore, j'ai une très mauvaise mémoire. Quand je te dis que j'ai une très mauvaise mémoire, c'est pas une. Je te jure, je me rappelle de rien. Je crois que j'ai vraiment trop bu dans ma vie, quoi. Vraiment. Hein. Mais genre, j'ai trop bu dans ma vie. Je me rappelle plus de rien. J'ai plus de mémoire de rien. Les gens me racontent ma vie, en fait. Mes potes me racontent. C'est eux qui filent les gaps du truc, quoi. Parce que je me rappelle de rien. Quand je dis rien, c'est rien, quoi. J'ai zéro souvenir de rien. Et du coup, je saurais pas te dire si. Moi, en fait, clairement, si je note pas mes anecdotes sur le moment même, c'est moi, je serais un de ces humoristes. Si j'avais une bonne mémoire, j'aurais plein d'histoires, tu vois. Mais j'oublie tout. Du coup, je me rappelle de bribes et j'ai pas la chute ou où je le raconte machin. Donc je suis obligé de. Je vais dire un truc. Mon spectacle, je raconte des anecdotes. Tu vois, des choses qui me sont arrivées. Mais en fait, en vrai, je m'en rappelle plus. Tu vois?
Ouais. Mais en même temps aussi, moi j'ai aussi beaucoup ce truc de si je romance une histoire, je me rappelle de la version romancée. Exactement. Plus de la vraie.
Ouais, ouais, clairement.
Et genre, quitte à mes souvenirs se changent en fonction de ce que j'ai changé dans.
De ouf, à fond.
Et ouais, des fois, c'est assez flippant de plus avoir le contrôle sur sa vie.
Et là, j'étais avec le roi du Maroc. Genre, non, pas du tout. Non, t'étais au Maroc. Ah oui, ça, j'étais au Maroc, pardon.
Pourquoi t'aimes boire?
Pourquoi j'aime boire? Alors, je t'annonce que j'aime de moins en moins ça.
Ok.
Scoop. Non, en fait, oui, bah, j'ai picolé beaucoup dans ma vie parce que, en fait, je me suis demandé l'autre fois aussi pourquoi. Je me suis demandé pourquoi j'aimais boire et je crois qu'en fait, la réponse, elle n'est pas si compliquée que ça, elle n'est pas si psychanalytique que ça. Je crois que la réponse, elle est. En fait, je suis tellement angoissé dans la vie que l'alcool, c'est un anxiolytique, en fait, bêtement. Mmh. Et que je crois que j'adore vraiment le moment où, après le troisième ou quatrième verre, mon cerveau me laisse un peu du répit, quoi.
Mmh.
Et donc, je crois que j'aime ce moment-là, en fait. Et j'aime le moment où, tout d'un coup, après, tu t'es plus tellement en contrôle avec toi-même, en fait. Et tu perds un peu. J'aime bien cette espèce de zone grise entre le contrôle et le non-contrôle. Je déteste le non-contrôle. J'aime plus du tout quand ça part en. Je veux plus le vivre, ça, quoi. J'essaie de modérer le plus possible pour plus vivre, pour plus avoir à vivre ça et me retrouver dans des situations que je regrette. Mais j'aime bien le moment où tout d'un coup t'es anesthésié, quoi. T'es anesthésié et tu souffles. En fait, je crois que j'aime ça. Et c'est simplement ça. Je crois que c'est vraiment une question d'angoisse.
Et t'as jamais pris de médoc pour l'angoisse?
Si. Bah, j'en ai pris un an là, pendant le confinement. J'ai fait des maladies d'angoisse, vraiment. J'ai fait des. Pendant le confinement, quoi. J'ai fait des gastrites, œsophagites, machin. Donc, j'étais obligé de prendre des médocs, tu vois.
Okay.
Et là, j'ai arrêté parce que, à un moment, je trouvais que ça m'anesthésiait et que j'avais l'impression de plus être moi-même, tu vois. Enfin, en tout cas, je me demandais si j'allais être différent ou si j'allais de retrouver un peu de créativité en les arrêtant. Mais oui, forcément, oui, j'ai pris des antidépresseurs dans ma vie, des trucs comme ça, tu vois, ouais, clairement. Mais pas par intermittent, ça, tu vois.
Mais pour revenir sur ce qu'on disait tantôt, sur le fait de, pendant que tu vis les anecdotes, savoir déjà ce que tu vas en faire et tout. Moi, là, pour l'instant, je suis assez obsédée par le taf et par le fait que faut que je travaille parce que sinon, je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai l'impression que mes émotions ne sont valides que si elles mènent à une réflexion qui va finir dans du stand-up, dans machin, quelque chose que j'ai
valide, sûr, pas valide.
Bah genre, ça sert à rien de ressentir des choses si c'est pas pour en faire quelque chose, tu vois. Et j'ai du mal à accepter juste de ressentir des trucs normaux qui vont pas finir, ouais. Qui sont pas assez flamboyants.
Ou tu te dis pas, putain, mais ça, les gens, ils vont halluciner,
ouais,
quand je vais leur dire que je suis une folle et que finalement, mon chat, j'ai envie de vivre avec lui et de voir personne d'autre, hein, tu vois, des trucs dans ce genre-là, quoi.
Par exemple.
Non, mais
Ouais.
Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est parce qu'on est tellement en recherche de matériel, quoi, de terreau. À fond.
Il n'y a pas de question, hein. Il n'y a pas de question.
Non, mais c'est comme si tu te dis tout d'un coup, dans ma vie, je veux me mettre avec quelqu'un. Imagine, tu te dis, je veux me mettre sérieux avec arrêter les aventures et tout d'un coup me mettre sérieux avec quelqu'un. Tu vois, tout d'un coup, tu te dis pas, est-ce que ça va pas rendre ma vie plus boring ou un truc comme ça? Est-ce que je vais encore avoir des trucs à raconter après? Forcément, je crois qu'on est niqué par le métier un peu. Comme on se dévoile beaucoup en fait, ou alors il faut vraiment qu'on change. Parce qu'il y a des gens qui le font pas. Tu vois, Haroun par exemple. Haroun, il parle pas beaucoup de lui-même.
Hein. Ouais, c'est vrai.
Très peu. Il a qu'une réflexion sur la société, etc. Et peut-être qu'on peut se réinventer un jour comme ça aussi. Hein. Mais j'en sais rien. Tu vois, moi j'ai l'impression que j'ai pas la force ou le talent pour le faire. Tu vois, de me dire je vais avoir une réflexion. Enfin, c'est pas une question de talent. Je crois que c'est plutôt une question de. Là, je t'ai dit, j'ai l'impression de plus avoir de réflexion suffisamment construite et d'avoir de choses à raconter sur la société que pour me dire tout d'un coup, bah, je vais parler des OGM ou je vais parler du réchauffement climatique en ayant un regard qui soit original et qui tout d'un coup, où les gens se disent putain, ça c'est quand même bien vu, quoi. Je pense que je l'ai pas. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ça va changer un jour, peut-être qu'on va trouver une pilule miracle qui te rend plus intelligent, je sais pas, un truc comme ça. Non, mais toi, tu pourrais le faire, tu penses?
Non, moi, c'est vraiment ce que tu as dit tantôt. J'ai pas assez de certitude sur quoi que ce soit autre que moi, et encore, pour me permettre d'avoir des opinions sur des choses.
Genre... C'est un truc de ouf, les opinions. Comment les gens, ils ont des opinions?
Je ne sais pas.
Comment les gens font pour avoir des opinions? Et plus tu vieillis, plus c'est un truc, c'est terrible, quoi. Dire, comment tu fais pour avoir des opinions tranchées sur. Moi, à part, tu vois, genre, le nazisme et tout, tu vois, ça, je sais que c'est pas bien, tu vois, par exemple.
Ouf.
Clairement,
ouais.
Il y a plein de choses je sais que c'est pas bien, mais pour le reste, si tu me donnes deux arguments et que tu les alimentes un peu correctement, je vais dire bah ouais, c'est pas bête, tu vois ce que tu dis, ou l'autre dit c'est pas bête ce qu'il dit, tu vois, et en fait j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir un truc tranché sur et prendre une position et dire en fait l'autre c'est de la merde, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et plus je vieillis, plus je suis comme ça. J'avais plein de certitudes quand j'étais plus jeune et tout, et aujourd'hui, je n'en ai plus du tout.
Tu militais dans la cour de récré?
Mais de ouf. Moi, j'étais dans les manifs d'extrême gauche à 15 ans. À 20 ans, j'étais mouvement anarchiste et tout ça. Enfin, tu vois, j'avais vraiment plein de trucs, quoi. Et aujourd'hui...
Qu'est-ce qui t'a fait changer?
Ouais, j'en sais rien. Je crois que j'étais tellement... j'avais tellement de problèmes à résoudre avec moi-même pour avancer, pour pouvoir vivre... Que tu vois, je me suis dit il faut que je règle mes problèmes en fait. Et du coup, je crois que je me suis un peu extrait de ce que je pensais de la société pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait à moi. Je te parle, c'est quand j'avais 25 ans, tu vois. 25 jusqu'à 32, 33, 34, un truc comme ça. Ça m'a pris vraiment longtemps, quoi. Essayer de comprendre comment je fonctionnais, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça allait pas dans la vie, pourquoi est-ce que j'étais pas bien, pourquoi est-ce que j'étais pas heureux, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément une bonne idée. Je crois qu'en fait, ce qui te rend heureux, c'est vraiment de penser aux autres, en fait, j'ai l'impression. Ce qui te rend heureux, c'est d'aider les autres. Ce qui rend vraiment heureux, je crois que c'est ça. Je crois qu'on a une tendance à... on est dans une société où t'as l'impression que tout le monde doit réfléchir à soi-même, tu vois, à se demander comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut se développer, comment est-ce qu'on peut extraire son meilleur potentiel, etc. Et en fait, tout le monde se retourne sur soi-même, ce qui est... à cheval de Troie, un peu du consumérisme et quelque part du système, quoi. Le système te dit, voilà, regardez-vous tous, et plus tu vas te regarder, plus tu vas avoir envie de te singulariser, plus tu vas avoir envie de te singulariser, plus tu vas consommer théoriquement. Enfin, en gros, je te fais une espèce de ligne du temps accélérée, mais il y a de ça. Et du coup, on sortir un peu du collectif, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, le collectif, c'est ça qui rend heureux, quoi. Je crois que ce qui rend heureux, c'est d'être dans une manif avec des gens où tu te dis, on regarde tous dans la même direction et on va aller ensemble et on va changer le truc ensemble, tu vois. Ça rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est de faire une maraude et d'aller aider des gens qui crèvent la dalle, quoi, tu vois. Ça j'ai l'impression que ça t'épanouit parce que t'as l'impression d'être utile.
Mais du coup, là, t'as trouvé pourquoi t'étais pas heureux?
Ouh là là, ça c'est une vaste question. Non. Non, madame. Désolé.
D'accord. Ok.
Mais ça va, je suis pas heureux. Après, je dis je suis pas heureux. Tu l'affirmes comme si j'étais pas heureux.
Mais c'est toi qui l'as dit, hein.
J'ai pas dit je suis pas heureux.
Tu l'as dit, je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas heureux.
Oui, ça, tu veux dire, est-ce que j'ai compris pourquoi j'étais pas heureux à l'époque?
Oui.
Parce que maintenant, je pète la forme, Fanny, tu vois, tu me vois. Est-ce que j'ai pas l'air le mec le plus épanoui de son quartier?
T'es mon soleil.
Mais je suis assez content que tu le reconnaisses. Parce que je voyais chaque fois, tu vois, ton petit œil qui frétille quand tu me vois. Et en fait, c'est ça, quoi.
Il brûle. C'est mon éclipse. Mais et toi, quand tu dis aller vers les autres, c'est ça qui rend heureux, un truc un peu plus collectif et tout. Toi, t'es davantage poussé vers ça maintenant ?
J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Je pense que j'aimerais bien. J'aimerais bien et en fait, c'est complexe la vie, tu vois, parce qu'en vérité, tu t'aimerais bien faire quelque chose, mais après, qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Tu pourrais le faire. Et finalement, qu'est-ce qui m'empêche de virer mon métier actuellement et de dire stop, c'est bon, j'ai eu ma dose de reconnaissance et j'ai eu. On a compris que je pouvais faire des spectacles, c'est bon, j'en ai fait deux, c'est assez. Ça, maintenant, je peux laisser ma place à d'autres gens et moi, je me mets dans une assoce et j'aide les autres, tu vois. Mmh. Et je fais des soupes populaires ou que sais-je, ou d'une assoce pour des enfants qui ont besoin d'apprendre à lire ou que sais-je. Enfin, tu vois, des trucs qu'on pourrait faire, en fait, finalement. Mmh. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on se dit, non, je vais essayer de faire une chronique et de la faire la mieux possible, que ça soit vu, que ça me permette de continuer à faire mon métier, en fait. L'idée, c'est ça, parce que ce que tu fais, c'est essayer à chaque fois de faire en sorte que tu puisses continuer à faire ton métier, qui est quand même un métier sympa. Donc on a trouvé une planque, qui est une planque assez cool, c'est humoriste, c'est notre planque. Enfin, je parle en notre nom,
ah
mais
ouais, d'ouf.
C'est une planque. Parce qu'on est bien payé pour faire un truc qui est quand même assez sympa, c'est réfléchir à la société ou réfléchir à soi-même et faire rire avec ça en ayant de la reconnaissance. C'est quand même un chouette métier. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir essayer de continuer à faire ce métier-là le plus longtemps possible, c'est essayer d'être performant. Si t'es performant dans ton métier, tu peux continuer à le faire, en fait. Mais au final, on pourrait très bien se dire, en fait, ça c'est du vent, quoi. C'est pas vrai, c'est pas ça qui est important dans la vie. Ce qui est important dans la vie, c'est mettre sa force de travail au service des autres, par exemple. Mm-hmm. Et peut-être que c'est ça qui rend heureux, tu vois. J'en sais rien. Putain, c'est deep, non ? C'est dark. C'est dark ou c'est deep ?
Non, c'est pas dark. Quand tu disais, dans ce qu'on apporte aux gens, l'utilité de l'humour et tout, il y a quand même une notion de profondeur et de réflexion que tu fais passer dans le spectacle. C'est pas que des blagues hélicobites, même si j'adore. Mais,
mon prochain spectacle sera probablement, il y aura probablement une partie hélicobite, je pense.
Ah ouais ?
12-15 minutes. T'imagines, n'empêche, tu vois, le mec qui fait vraiment, tu vois, la Andy Kaufman, tu vois, ouais. Genre hélicobite, mais pendant un quart d'heure avec les gens au début qui rigolent de ouf,
ouais.
Et puis après,
ils rigolent,
et puis à un moment, malaise, et les gens qui partent après 7 minutes, et il reste 4 personnes.
Tu penses qu'ils partiraient après 7 minutes?
Je crois qu'à un moment, si tu lâches pas l'hélicobite, je pense qu'à un moment, il y a un phénomène de lassitude de l'hélicobite, je pense, vraiment.
Moi, je dirais plutôt genre 17 minutes.
Tu crois?
Bah, ouais.
On peut le tenter.
C'est toi qui l'as dit. Non, mais du coup, il y a quand même une notion de réflexion dans ce que tu écris. Il y a toujours un truc que tu essayes de faire passer de manière plus ou moins subtile. D'ailleurs, on en avait parlé, je pense. C'était quand tu écrivais le deuxième spectacle. Tu trouvais que des fois, tu mettais trop de blagues. Et que tu avais un débit de blagues qui était énorme et qui, des fois, justement, recouvrait un peu trop le propos. Est-ce que c'est un truc que t'as fini par accepter ou que tu contre lequel tu luttes toujours un peu?
Ouais, mais je crois que c'est une question de sentiment d'imposture, quoi, en fait. Moi, c'est-à-dire que quand je parle sérieusement sur scène, de la même manière que quand je parle sérieusement dans des podcasts ou dans des interviews, en fait, je me sens pas à ma place pour être au milieu, au centre de l'attention quand je suis sérieux, si tu veux. J'estime que ma plus-value publique, elle est de faire des blagues, ce que j'étais capable de faire jusqu'à présent, tu vois, faire des blagues. Et du coup, en fait, quand je suis sur scène et que je fais pas de blagues, je me sens nu, quoi, et j'ai l'impression que les gens ça les fait chier et il faut toujours en mettre le plus possible. Et c'est vrai que parfois ça biaise le propos ou ça l'édulcore, tu vois, quelque part, parce que ça part. En général, les blagues, elles partent d'une réflexion sur le monde, tu réfléchis, tu dis tiens, t'as un angle, tu dis tiens, ça, j'ai pas entendu beaucoup de gens penser de cette manière-là, comment est-ce que je vais le traduire en blague, tu vois. Et le Graal, c'est évidemment d'arriver avec beaucoup de blagues à restituer ton propos de la manière la plus fidèle possible, quoi. Ça, c'est idéal, tu vois. Mais j'ai du mal à faire ça et donc je bourre de blagues pour. Ouais, toi, t'as pas ça, tu vois. toi, tu peux poser ton, t'as un truc beaucoup plus américain dans la manière de poser ton stand-up, quoi. T'es beaucoup plus, tu vas pouvoir faire une prémisse parfois qui va durer 30, 40 secondes en expliquant bien de où tu pars. Et puis, tu vas lâcher des vannes. Moi, je vais faire des vannes directement dans la deuxième phrase de la prémisse, quoi.
Ouais, mais c'est pas... C'est assez présomptueux et prétentieux de faire ça, je pense, de capter l'attention des gens pendant aussi longtemps. Ça veut dire que t'as intérêt à avoir un solide truc derrière. Puis juste, c'est parce que, ouais, je sais pas, je suis pas assez drôle pour trouver des blagues sur tout.
Non, je pense pas, non, parce que des blagues, techniquement, t'es au point, tu vois, en termes de blagues. C'est juste que t'aimes bien poser... J'ai l'impression que ton style, c'est de poser un peu... poser le truc, et t'as quand même une espèce de confiance aussi, j'ai l'impression, sur scène, que t'avais dès le départ, quoi. Mm. C'est aussi ce qui a fait que t'as percé aussi vite, j'ai l'impression, c'est que t'avais cette espèce d'assurance sur scène, de jamais te laisser démonter, de toujours parler clairement, de jamais accélérer. Tu sais, moi, quand je démarrais, si jamais ça rigolait pas... Toi, t'as jamais été comme ça, quoi. Depuis que je te vois, t'es toujours sur scène, tu parles avec ton débit, même si ça fonctionne moins bien, tu te laisses pas démonter. Moi, je t'ai jamais vu te laisser vraiment démonter, ou alors tu le fais intérieurement, mais ça se voit pas. Mais sinon, tu vois, ça fait partie un peu de ton style, quoi.
Ouais.
Et on n'a pas beaucoup en Belgique à faire ça. Hein.
Je sais pas, j'ai du mal à comparer.
Non, mais en termes de style pur, tu vois, de se dire, voilà, alors moi, mes émotions, tu vois,
c'est trop dans le côté conférence TED, quoi. Mais là où toi, comment est-ce que tu construis les trucs, justement? Est-ce que tu pars d'un propos, tu dis ok, j'ai envie de développer ça d'un point A à un point B avec en gros cet arc là, blague 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 blague, tu vois? Est-ce que tu reprends phrase par phrase à rajouter des trucs? Est-ce que tu, comment tu...
Je peux aller aux toilettes?
Oui. Est-ce que tu penses que l'humour est en train de se saturer? Genre, il y a tellement des humoristes partout, tout le temps, dans tout, même dans des types de programmes où ça n'a pas vraiment sa place.
Bah, je pensais ça il y a 4 ans et je me disais, c'est fini, tu vois, c'est trop. Et en fait, ça continue. Donc, je crois qu'en fait, je me suis trompé à l'époque et j'étais pas visionnaire pour un sou. Et...
Comme quand tu pensais que Facebook allait pas marcher.
Exactement. Exactement, tout à fait. Non, non, mais oui. Je crois qu'en fait, il y a une demande qui est continue, en fait. Il y a une demande, il y a vraiment objectivement une vraie demande. Quand tu vois le nombre d'humoristes qui marchent bien, qui remplissent des grosses salles, c'est effrayant, hein. Je veux dire, franchement, si tu fais le top 30 ou 40 des humoristes en France, là-dedans, t'as vraiment plein de gens qui remplissent des salles de 500 à 1000 personnes, quoi. Il y a beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'avant, il y a 15 ans, t'avais... peut-être, je sais pas moi, 10 têtes de gondole de l'humour, et puis c'était basta, quoi. Tu vois, toujours les mêmes, c'était en permanence les mêmes. Aujourd'hui, vraiment, il y a plein de gens qui... Et les gens continuent à venir dans les salles, et les plateaux de stand-up sont remplis, et la nouvelle génération arrive, etc. Enfin, il y a un truc de, à mon avis, j'ai pas l'impression que ce soit... Je croyais que ça allait... Je me disais, c'est pas possible. Les gens, ils peuvent pas ne pas en avoir marre d'avoir tout le temps une chronique marrante pour un oui ou pour un non dans n'importe quel, dans une émission de cuisine, tout d'un coup qu'il y a un mec qui vient et qui fait des blagues sur la farine, généralement tu te dis bon, ça va être trop, quoi. Mais en fait non, en fait les gens se lassent jamais de l'humour. Et puis c'est plutôt un point positif pour notre futur professionnel,
et si l'avenir n'était pas si sombre.
Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression que tel que c'est parti, ça va continuer encore un petit moment. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une bascule, tu vois, à un moment? Parce que moi, je crois, franchement, je crois que ce serait mieux d'inviter des chroniques de sociologues pendant 3 minutes, ou de gens qui décryptent, tu vois, genre Clément Viktorovitch dans Clic.
Clément Viktorovitch, ouais.
Ouais. Tu vois, des mecs comme ça, qui sont pas marrants, mais qui ont 4 minutes où ils te décryptent l'actu et où ils te donnent un plus. Je pense que j'ai l'impression que c'est peut-être plus salutaire à certains niveaux que moi, quand je viens raconter que j'ai failli me faire arrêter par un flic, tu vois. Je pense. Mais y a toujours une demande pour ça, et ça continue, et donc ça flux tendu, et tant mieux. Je sais pas.
Dernière question. Est-ce que toi, t'as l'impression que tu dois changer des choses dans ce que tu fais? Il me semble que tu m'avais dit que pour Inter, par exemple, t'essayais d'avoir un nouveau gimmick chaque année. Est-ce que tu te sens un peu obligé d'évoluer, ou est-ce que c'est juste tu comptes sur le fait que tu vas évoluer en tant que personne, donc ça ira?
Ouais. Bon, j'essaye de pas trop. Ouais, c'est un équilibre à avoir, tu vois. Parfois, je me dis putain, ça fait quand même 17 fois que j'utilise le même truc. Et en même temps, c'est une espèce de rendez-vous. Et en même temps, tu vois, il y a un truc de répétition qui est marrant. Donc, soit tu te dis, je me renouvelle à chaque fois, et c'est en fait, c'est impossible. Mmh. Je crois que c'est enfin c'est impossible, non c'est possible hein, mais c'est pas moi j'ai pas ça.
Il faut 12 000 co-auteurs
oui. Ouais. Voilà, parce qu'on n'a pas, tu vois, moi toi t'écris seul, je pense ouais. Moi j'écris seul depuis toujours, jamais co-écrit, et donc oui, donc voilà, à un moment les gimmicks ça te permet aussi de t'appuyer d'avoir quelques béquilles comme ça qui te permettent de te rassurer aussi, de dire tiens ça va être marrant, au moins je vais avoir ça et après je peux essayer de capitaliser là-dessus, etc. Si je pouvais choisir, j'adorerais me renouveler et tout d'un coup arriver à quelque chose de neuf tout le temps et tout, mais en fait je crois que c'est pas possible, je crois c'est compliqué, donc il faut accepter que je raconte que je fasse Ernesto fils de la poêle à frire et du séquoia, et voilà, et que ce soit marrant, tu vois. Mais à un moment, je vais arrêter parce que je les ai trop faites, quoi. J'ai plus de trucs marrants à dire. Si moi je trouve plus que c'est marrant, je le fais plus, quoi. Si je continue à me dire, tiens, ça c'est rigolo. Si moi je trouve ça rigolo quand je l'écris, ça va, tu vois. Mais si à un moment je le fais que pour avoir un effet.
Et tu regardes jamais d'humour?
Très peu. Vraiment. Je regarde pas les chroniques de personne. Je regarde pas de sketch. Ou vraiment très rarement, quoi, parce que je me dis j'ai pas envie d'être influencé. Je regarde pas les spectacles d'Éricain et tout plus, en fait. Je les ai regardés pendant un petit moment, enfin je regardais Bill Burr, enfin je regarde encore Bill Burr machin, Chappelle et tout ça, mais mes préférés, quoi. Je regarde vraiment mes préférés, mais sinon les autres, il y a tellement d'humoristes forts qui parlent de tellement de choses qu'à un moment ça t'inhibe, quoi, parce que tu te dis chaque fois que tu veux aborder un sujet, prenons que tu sois un geek de l'humour, ce que je ne suis pas, mais si j'étais un geek de l'humour, mon spectacle, bah je me dirais, bah oui, mais il y a telle personne qui a abordé ça et qui a utilisé tel mot à tel moment, etc. Et en fait, comment tu fais pour avancer? Alors moi, au moins ce que je fais, je me dis, bon ben voilà, je le fais, c'est sorti de moi. Et si ça ressemble à quelque chose, c'est fortuit, quoi. C'est pas fait exprès, tu vois. Je crois que sinon, tu oses plus t'aventurer sur les terrains, tu vois. Déjà, Siké, par exemple, tu regardes Siké. Je regardais Siké et je me disais, ben, je peux plus, quoi. Je peux plus m'aventurer sur tel terrain. Et il y a été et il a raflé la mise, quoi. Et tu peux pas faire mieux. C'est trop bien, quoi. Son angle, il tue. Bill Burr, ses angles, il tue. Enfin, Sarah Silverman, enfin, il y a des gens comme ça, tu sais, c'est trop fort, quoi. Et donc, il faut accepter que t'es à ton niveau et qu'à ton niveau, tu développes tes thématiques. Avec ton talent, quoi, et qu'il y a de la place pour ça aussi, je crois. Tu vois, il y a de la place pour le degré d'exigence qu'ont les gens vis-à-vis de mon travail. Mais je pense que si les amateurs hardcore de Louis C.K. venaient voir ce que je fais, ils aimeraient pas ce que je fais, je pense. Tu vois.
Tu seras donc en tournée.
Non mais tu commences à gérer.
Ouais, je comprends.
Oui. T'as pas ce sentiment-là de te dire, je sais pas, c'est qui ton idole en humour?
Bon, j'aime tous les Daniel Sloss, Sarah Silverman, qui a des angles, ouais, de zinzin.
Si tu te dis le public de Sarah Silverman qui suit Sarah Silverman, vient voir à Fanny Ruiz.
Je les refuse à l'entrée.
Tu commences, donc,
oui,
tu commences,
oui,
ce que
oui,
je veux dire.
Oui.
Parce qu'ils ont déjà été habitués à des gens qui te tirent les angles jusque dans les derniers tranchements, etc. Ce que je suis pas encore capable de faire, quoi. Je suis pas encore capable de. Et en France, il y a pas tant de monde que ça, comme ça, qui est capable d'aller jusqu'au bout du. Il y a Roman Frissinet, X et Y, Blanche Gardin. Enfin, tu vois, qui peuvent tirer et sortir la moelle vraiment d'un angle. Moi, je suis pas encore capable de faire ça, quoi, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est réjouissant. Ça veut dire qu'il y a du progrès possible et que. Ça, c'est... Moi, j'en parle souvent avec Jason Brokers de ça, tu vois. On parle souvent de ça, du fait que théoriquement, on sera des meilleurs humoristes dans 10 ans, quoi. C'est quand même ce qui est plutôt une vision positive du truc, parce que normalement, tu te dis, en France, l'expérience nous fait dire que les humoristes, à partir d'un certain à partir du troisième spectacle, après, n'ont plus grand-chose à raconter et déclinent, tu vois. Mm-hmm. C'est plutôt ce qui s'est passé jusqu'à présent dans l'histoire de l'humour francophone. Pas toujours, il y a des contre-exemples, mais... Alors que du côté américain...
C'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Ouais.
Plus ils vieillissent, plus ils sont forts. Et...
Tu penses que c'est dû à quoi?
Je pense qu'ils bossent plus que les humoristes français. Ils continuent à se frotter en fait au comedy club tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ils vont tester de nouveaux trucs tout le temps. Donc ils lâchent jamais l'os, quoi, si tu veux. Plus ils vieillissent, plus ils, comment dire, ils prennent de l'expérience, prennent de la maturité et tout ça. En revanche, ça c'est vraiment une question que tu vois, j'aurais bien aimé l'aborder avec toi. Tu vois, c'est quand tu rentres dans le circuit de je fais des blagues et je les raconte. Finalement, ben comment est-ce que tu te renouvelles en tant que personne, quoi, tu vois? Comment est-ce que t'as autre chose à raconter que, finalement, j'ai raconté des blagues, je suis allé en tournée, j'ai fait ceci, et alors il m'est arrivé un truc en spectacle, parce que finalement,
t'es plus relatable. Tu n'as plus de choses.
T'es déconnecté un peu de la vie des gens, quoi, tu vois? Quand tu commences, t'es encore.
Mais c'est pour ça qu'autant de choses parlent de l'enfance. C'est parce que tout est encore normal et que je pense qu'on passe sa vie d'adulte à se remettre de son enfance. Mais je pense que c'est pour ça qu'on parle aussi souvent de choses qui nous arrivaient ou qui nous ont marqué quand on était plus jeune. Parce que c'est le seul truc où tout le monde a vécu un peu la même chose sans qu'il y ait de décalage.
Mais c'est parce qu'à un moment, ça devient ton métier, quoi. Et ouais. En fait, le truc, c'est que tout d'un coup, c'est... Ben... Ça devient une espèce de... Tu dois faire un troisième album parce que t'as fait... Le premier album, t'as vraiment tout mis. Le deuxième, il te reste encore un peu. Et puis le troisième, en fait, t'es musicien connu.
Ouais.
Et tout d'un coup, ton statut, ton métier, ta vie, c'est d'être musicien connu, quoi. Et donc, tu dois dire, mais oui, mais qu'est-ce que je vais... Maintenant, je dois faire un troisième album, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, ça devient moins intéressant, quoi. Mais c'est vrai que l'humour, c'est un truc un peu spécifique par rapport à ça. Est-ce que... Est-ce que tu prends... Moi, j'aimerais bien que la bouteille que je prends en tant qu'homme et la bouteille que je prends en tant que blagueur, tu vois, ça me permette de devenir un meilleur humoriste. Mais en même temps, il y a l'autre versant qui est que tout ce que j'ai à raconter dans la vie, ça diminue, quoi. Puisque j'ai raconté beaucoup, j'ai donné beaucoup de moi-même.
Mmh.
Et donc, en fait, il y a un équilibre, quoi, entre les deux, quoi. Entre moi qui techniquement deviens meilleur... Et moi qui n'ai plus grand chose à raconter, et franchement, je sais pas ce que ça va donner.
Et ça te fait peur?
Bah, c'est un peu effrayant, ouais, parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir, Fanny?
Merci, Guy.
Bah, c'est pas un mot de la fin de ouf, ça?
Oui.
Merci à toi.
J'espère que l'épisode vous a plu, vous a intéressé. Et je rappelle que Guillermo Guise jouera son nouveau spectacle Au Suivant en France, en Belgique et en Suisse durant les prochains mois. Toutes les dates sont sur son site guillermoguise.com. Dans la description de ce podcast, vous trouverez des liens vers ses réseaux, vers son premier spectacle qui est dispo sur Canal, vers sa web-série Le Roi de la Vanne, vers ses chroniques France Inter, vers le film Fragile dans lequel il a joué et qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux Gens qui doutent via la plateforme de podcast que vous préférez, à laisser des étoiles, des commentaires, à partager les épisodes et tout, ça aide de ouf à le faire connaître et donc à avoir accès à des invités auxquels j'aurais pas eu forcément accès autrement. Prochain épisode dans 2 semaines, je reprends le rythme habituel et d'ici là, bah, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en cherchant Fanny Ruet. Des bisous! Et cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, oh là là qu'il est beau, Maxime Wathieu!